diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Magdalena Rosinkova. À l'affiche aujourd'hui le théâtre, le jazz, le courrier des auditeurs ainsi qu'une rencontre littéraire consacrée à la Sibérie. Dans la rubrique culturelle aujourd'hui, Anna Kubeshta vous propose de parler d'une pièce de théâtre présentée dans le cadre du Festival de la culture orientale avec Lucia Malkova qui la met en scène. En deuxième partie d'émission, rencontre avec Eric Truffaz, le plus grand trompettiste de jazz européen contemporain.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous. Du 20 au 27 octobre se déroule la troisième édition du Festival de la culture orientale dont nous vous avons parlé pendant la semaine. Ce samedi soir, le Cross Club propose en tchèque la pièce d'Adèle Hakim intitulée Exécuteur numéro 14. La mise en scène est signée Lucie Malkova qui nous en dit plus sur Adèle Hakim.
Adèle Hakim, il est un auteur d'origine égyptienne et maintenant il vit à Paris. Il est acteur et même metteur en scène qui fait la mise en scène partout dans le monde. Les dernières choses qu'il a fait, c'était par exemple à Santiago, à Chile ou à l'Israël.
Alors, la pièce que vous présentez dans le cadre du Festival de la culture orientale à Prague s'appelle en tchèque Popravci Číslo 14.
Oui, oui.
Et en français, c'est Exécuteur numéro 14. Est-ce que vous pourriez un petit peu présenter cette pièce et dans quel contexte peut-être a-t-elle été créée?
Alors, cette pièce, c'est une pièce pour un acteur, un monodrame. L'idée principale, c'est l'histoire de l'homme qui a vécu la guerre civile. Adèle Hakim, il écrit que sa pièce, c'est une topographie mentale. En fait, il essaie de dire ce que c'est comme un genre. Et donc, c'est vraiment une pièce qui est très basée sur les mémoires de l'homme qui vécu dans le monde contemporain et qui en fait veut et essaie de se suicider, mais il ne peut pas, donc il doit vivre chaque jour avec toutes ces mémoires qui sont traumatisantes pour lui.
Et peut-être avec une forme de culpabilité, puisqu'on ne sait pas s'il est bourreau, victime.
Oui, c'est très bien écrit, parce que ça, c'est vraiment la question qui est posée, qui est le victime et qui est vraiment celui qui fait mal.
J'ai lu que Adèle Hakim avait vécu au Liban. Est-ce que vous pensez qu'il a tiré de cette expérience-là? Parce que je crois savoir que la pièce ne donne pas vraiment de lieu. Hein. Ça peut être n'importe quelle guerre civile, finalement.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que vraiment c'était inspiré de l'histoire des guerres libanais. Mais ce qui est très bien sur la pièce, c'est que c'est vraiment universel. C'est plutôt une pièce modèle. Et on peut vraiment l'utiliser, toute cette histoire qui se passe là-bas, on peut l'utiliser à n'importe où.
Pourquoi avoir choisi cette pièce en particulier?
Au premier lieu, je peux dire que c'est important de parler de ce thème. Et puis, c'est vraiment très bien écrit. Je veux dire que le texte est très poétique, d'une part, et très cruel, d'autre part. Et vraiment, c'est un petit peu semblable comme La Terre Sainte de Mohamed Kassimi. Mais ici, c'est vraiment beaucoup plus concentré sur la langue et sur des expressions et sur l'histoire de cet homme. Mais c'est vraiment les événements qui sont dans la pièce, je veux dire dans La Terre Sainte, et ici à l'exécuteur numéro 14, je veux dire que les événements sont pareils.
Il faut rappeler que justement Terre Sainte est jouée au Rock Café fréquemment. Vous avez également mis en scène cette pièce. Alors justement, cette pièce-ci, Exécuteur numéro 14, comment est-ce que vous l'avez travaillée justement
peut-être pour les personnes qui n'auraient pas la chance de le voir là pendant le festival.
À vrai dire, c'était très difficile parce que c'est plus difficile de travailler avec un acteur sur un monodrame parce que c'est vraiment comme une liaison entre nous et c'est beaucoup plus intime en fait. Mais aussi on a dit à un ami qui est un garçon qui joue très bien de la guitare électrique. Donc on n'est pas seul, il y a aussi de la musique qui accompagne le monologue et qui a aussi une fonction dramatique. Mais c'est vrai que c'était très difficile pour moi, c'était un premier monodrame pour cet acteur aussi. Donc on s'est dit oui, il faut essayer. Et on était vraiment dirigé par le thème, donc c'était très intensif.
Donc c'était un vrai défi. Alors quand est-ce qu'on peut voir cette pièce? Alors dans le cadre du festival de la culture orientale, quelles sont les autres dates de cette pièce?
D'autres représentations de cette pièce seront en novembre et décembre. Et en novembre, on va jouer le 7, le 8, le 14, le 22 et le 24. Et puis en décembre, on va jouer le 1er, le 8, 13 et 15.
Au Cross Club aussi?
Oui, toujours au Cross Club.
Dans la deuxième partie de cette émission, rencontre avec Éric Truffaz. Né en Suisse, ce trompettiste français est un des grands noms du jazz actuel. Nous avons déjà eu l'occasion de l'interviewer sur Radio Prague, car Éric Truffaz est un habitué des scènes fragoises. Invité par la station Radio Wave, il a commencé par revenir sur les musiques qui l'ont accompagné dans sa jeunesse.
Alors, il y a deux réponses. L'enfance, j'écoutais la chanson française, et l'adolescence, j'écoutais la pop anglaise.
J'ai lu dans une interview que votre père jouait du saxophone. Pourquoi avez-vous choisi la trompette et non pas le saxophone?
Ah, je n'ai pas choisi la trompette. C'est mon père qui a choisi pour moi, de façon à ce que je puisse jouer dans son groupe.
Parfois, justement, les enfants à qui on impose un instrument ne sont pas forcément très satisfaits de devoir jouer d'un instrument qu'on a choisi pour eux. Quels étaient un peu les débuts pour vous? Est-ce que la trompette vous a tout de suite séduite?
Quand j'étais enfant, autour de l'âge de 6 ans, j'aimais beaucoup jouer de la trompette. Après 14 ans, j'avais envie de faire de la guitare électrique. Puis j'ai découvert la musique de Miles Davis, la musique électrique de Miles Davis, et je me suis aperçu qu'on pouvait jouer de la trompette dans un univers électrique, donc ça m'a plu et j'ai continué.
Vous êtes considéré comme le plus grand trompettiste de jazz européen, donc la trompette est votre instrument. Est-ce que vous avez déjà envisagé de jouer sur d'autres instruments ou est-ce que vous jouez sur d'autres instruments à côté?
À 16 ans, j'ai appris le piano. Après, j'étais professeur de piano. Et pour composer, j'utilise le piano, mais la trompette est l'instrument qui est le plus proche de ma voix. Et c'est avec cet instrument que je peux le mieux traduire mes émotions.
Est-ce qu'il est possible de décrire à quelqu'un qui n'a jamais joué sur cet instrument, à la trompette, ce qui vous plaît le plus dans cet instrument, ce qui est le plus proche pour vous, ce qui fait battre votre cœur d'une certaine façon?
Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir faire vibrer un bout de métal et de faire passer ce qu'il y a dans mon cœur au travers d'un instrument. Et ce qui me plaît, c'est que je peux obtenir des sons très doux et des sons très violents.
Dans une interview, vous avez dit beaucoup apprécier l'écrivain Milan Kundera. Quel roman de Milan Kundera aimez-vous et qu'appréciez-vous chez cet auteur?
J'aime beaucoup la relation que Milan Kundera a avec le temps. Il écrit un livre qui s'appelle La lenteur, qui m'a inspiré pour un titre qui s'appelle The Walk of the Giant Turtle. Il développe une théorie dans ce livre comme quoi rien ne sert de courir parce qu'on n'arrive rien à faire de bien en courant et donc vaut mieux aller lentement et faire les choses correctement. Et j'aime beaucoup comme il mélange les personnages qui arrivent d'une époque passée, comme du Moyen-Âge, qui se retrouve dans un hôtel, par exemple, contemporain, dans un hôtel contemporain. Un chevalier, par exemple, passe une nuit avec une princesse et il se réveille dans un hôtel Hilton. Et il raconte, et à contrario, celui qui s'est endormi dans l'hôtel Hilton se réveille au Moyen-Âge. J'aime bien les comparaisons parce qu'il arrive à prouver que, au fil du temps, l'être humain reste le même, avec ses forces et ses faiblesses. Je trouve juste dommage qu'il ne traduise pas ses livres en tchèque, puisqu'il les écrit en français maintenant.
Parmi les autres personnalités de la culture tchèque que vous mentionnez comme quelqu'un que vous admirez, il y a également le compositeur Leoš Janáček. En quoi sa musique vous intéresse-t-elle, vous plaît-elle, vous-même en tant que compositeur, en tant que musicien?
La musique de Janáček est mystérieuse. C'est une musique savante mais abordable. Et j'aime surtout les quatuors. Et puis c'est comme dans Milan Kundera, je pense que l'Est de l'Europe est poétique et tourmenté à la fois.
C'était le trompettiste de jazz Eric Truffaz dans Culture sans frontières. Anna Kubishta reste avec nous pour le courrier des auditeurs.
Courrier des auditeurs.
Très peu de courriers dans notre boîte aux lettres ces derniers temps. Nous en sommes fort déçus et espérons que vous allez nous faire parvenir sous peu vos impressions et questions sur la République tchèque ou encore sur la radio. Pierre Chéroux de Montpellier nous a fait parvenir ce gentil mail. Chers amis de Radio Prague, après une longue période de silence, je vous écris pour vous dire que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Montpellier cet été et pendant 3 semaines, Marketa, une étudiante pragoise qui cherchait une famille d'accueil pour parler français. Étant un tchécophile convaincu, je parle assez bien votre langue et j'ai visité votre pays à 6 reprises. Ce fut un vrai bonheur pour nous de l'accueillir et de lui faire découvrir notre région, notre culture et bien sûr de l'aider à assimiler certaines difficultés de notre langue. J'ai une petite anecdote à vous raconter. En lui faisant visiter Nîmes, Marketa m'a fait remarquer la présence du drapeau tchèque sur un bâtiment. Il s'agit du lycée Alphonse Daudet qui abrite une section tchèque depuis 90 ans. Toutes mes amitiés à votre équipe. En effet, Pierre, le lycée Alphonse Daudet abrite bel et bien une section tchèque depuis presque un siècle désormais. C'est le Nîmois Ernest Denis, né en 1849 et décédé en 1921, tchécophone et tchécophile, historien spécialiste de l'histoire de la Bohème, qui est le père spirituel de cette section. Amoureux de la Bohème, c'est grâce à ce personnage que se sont noués des liens entre les pays tchèques et la France. Il a travaillé d'arrache-pied à la bonne renommée de la culture tchèque en France. Les deux premières sections tchèques du lycée Carnot, à Dijon et d'un lycée à Saint-Germain-en-Laye ont été créées en 1921, juste après sa mort, et pour lui rendre hommage. Chaque année, elles ont ainsi accueilli de jeunes tchécoslovaques, futures élites du pays. Quant au lycée de Nîmes, il est créé 2 ans après celle-ci et accueille ses 12 premiers élèves boursiers en 1924. La section tchèque de Nîmes, comme les autres, est marquée par les soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Elle ferme une première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, rouvre de 1947 à 1949 et reprend ses activités sans discontinuer depuis les années 1960. Là, les jeunes lycéens tchèques passent aujourd'hui leur baccalauréat à Dijon et à Nîmes. La particularité du lycée Alphonse Daudet étant qu'il est le seul établissement en France à proposer aux élèves français une option facultative de langue tchèque. L'existence de la section a également favorisé le développement d'échanges réguliers avec 2 lycées du 1er arrondissement de Prague. Si vous souhaitez en savoir plus sur la section tchèque, celle-ci possède même une page internet http://sectiontchèque.lycédaudet.fr. «
Nagmouchi Nouari d'Algérie nous a également écrit cet email. Pour commencer cette lettre, permettez-moi de remercier Radio Prague qui est pour votre auditeur le seul guide m'informant avec autant de précision de l'actualité depuis la politique jusqu'à la culture, sans oublier le développement économique du pays et ses accords avec les États les plus pauvres comme en Afrique et dans le reste du monde. Au-delà, je m'intéresse surtout au bulletin d'information concernant la vie en Tchéquie et son développement économique ainsi que son influence sur le monde extérieur avec la politique étrangère. Néanmoins, la culture m'a passionnée et j'ai été enchantée par votre programme musical ayant pour avantage sa longue durée, offrant la possibilité de découvrir de nombreux auteurs et chanteurs. Les chansons tchèques sont très jolies, très belles. J'aime bien les reportages aussi car je suis très curieux de la culture tchèque. En écoutant le programme de Radio Prague et du service français, je trouve important que le français soit inclus. Ceci soutient non seulement la francophonie, mais encourage à suivre plus souvent vos programmes. Merci Nagmouchi Nouari qui nous avait écrit d'Algérie. Et puis merci encore à Jean-Marie Monplot de Chambéry en France et André Billot de Romeret en Belgique pour leur rapport d'écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez pu le constater par vous-même. Nous avons reçu très peu de courriers. Alors surtout, n'oubliez pas de nous contacter, de nous faire part de vos commentaires et remarques sur l'actualité tchèque. Nous vous répondrons bien entendu dans cette rubrique. Merci à tous. À bientôt.
Merci à Anna Kubishta pour ce courrier des auditeurs. La fascination par la Sibérie, tel est le titre du magazine littéraire de ce samedi. Václav Richter vous parlera de l'œuvre du documentariste et écrivain Martin Rechavy.
Rencontre littéraire. Il y a 120 ans, la bibliothèque municipale de Prague ouvrait ses portes. Cette vieille institution fête son anniversaire par une série de manifestations et cherche à se présenter au public comme une bibliothèque traditionnelle, c'est-à-dire une salle de prêt et de lecture, mais surtout comme un centre informatique du 21e siècle. Au cours de mon séjour en Sibérie, j'ai vécu quelque chose de vraiment miraculeux qui a changé d'une certaine manière ma vie, dit Martin Rechavy, un documentariste tchèque qui s'est lancé aussi dans l'écriture. Attiré irrésistiblement par la Sibérie, il s'y est rendu plusieurs fois, y a tourné plusieurs documentaires et a fini par écrire un grand roman inspiré par ses expériences sibériennes. C'est un ouvrage impressionnant déjà au premier abord. Les deux volumes du roman de Martin Rechavy intitulé « Voyage en Sibérie » comptent plus de 600 pages de grand format. Et le lecteur, en le lisant, apprend vite qu'il ne s'agit pas que d'un simple récit de voyage. Bientôt, il cesse de s'interroger sur la part de la fiction dans ce roman et finit par confondre le héros du livre avec son auteur. Ce dernier avoue d'ailleurs avoir vécu la majorité écrasante des événements décrits dans le livre. Interrogé sur la raison des fréquents voyages que son héros entreprend en Sibérie, il souligne le rôle du hasard.
Je crois que c'est dit de la meilleure façon dans un des chapitres de ce livre. Il y a un vieux conte russe dont le titre est « Va, je ne sais où ». apporte je ne sais quoi. Je crois que c'est la véritable raison pour laquelle le héros du livre entreprend un voyage en Sibérie.
Et pourtant, le lecteur pourrait trouver dans le texte beaucoup d'autres motifs poussant le héros du livre à quitter le milieu tchèque. C'est certes la réalisation d'un rêve d'enfant, mais aussi l'issue de l'impasse d'une vie sentimentale trop compliquée et le désir de se distinguer, de susciter l'envie de ses amis. Lors de la première série des voyages, dont les récits sont réunis dans le premier volume du roman, le héros passe d'ailleurs la période de grande confusion, de désarroi de la jeunesse et d'impulsions subites qui étaient probablement typiques pour toute une génération. Et en cela aussi, il ressemble à Martin Richavi, romancier documentariste né en 1967.
To fakt jedna z věcí, která mě hodně překvapila. Už když jsem tu knihu přinesl do redakce Revolver Revue, tak ty lidi
kliknou. Une des choses qui m'ont beaucoup surpris déjà au moment où j'ai apporté le manuscrit du livre à la rédaction de la Revolver Revue, c'est que les gens qui l'ont lu me disaient partager surtout le sentiment qu'on trouve dans le premier volume situé encore dans les années 1990. J'ai cru pendant longtemps que ce n'était que moi qui étais si follement confus dans cette période. Et tout à coup, mon livre a révélé une sensation de proximité des membres de toute une génération. Je croyais décrire un phénomène isolé, exotique, qui serait perçu comme quelque chose d'inclassable.
Pendant ses séjours, le héros du roman est confronté avec la rude vie des Sibériens et ses phénomènes particuliers dont le conflit avec la vie uniformisée de la campagne russe et la vie nomade, le chamanisme et d'autres aspects de la réalité sibérienne. Il découvre également des sites naturels uniques de l'immense espace sibérien. La réalité environnante se reflète dans l'âme du héros qui se cherche, subit des influences multiples et évolue. Ce récit du voyage est donc aussi un récit sur la vie d'un homme qui apprend à travers la nature sibérienne beaucoup de choses sur lui-même. Martin Richavi admet qu'il y a des aspects qui apparentent son roman au célèbre récit d'un Kerouac ou d'un Céline.
Je crois que oui. En ce qui concerne le genre de narration, mon texte se situe assez près de ces auteurs. J'aime les deux écrivains. Aujourd'hui, peut-être, j'aime plus Céline que Kerouac. Mais mon écriture a été influencée aussi par d'autres auteurs. Je pense en plus que chez Céline, de même que chez Kerouac, l'accent est mis quand même beaucoup plus sur le niveau du style. Comme dit Céline quelque part, n'importe qui connaît des histoires intéressantes, mais c'est le style de la narration qui est important. Et je dois dire que dans mon roman, je m'en foutais un peu. Les histoires me semblaient tellement intéressantes pour elles-mêmes que je tenais beaucoup à les raconter nettement et concrètement, et je ne mettais donc pas l'accent sur l'expression et la stylisation. Je désirais vraiment donner à tout cela un aspect de normalité, afin que la folie de certains événements jure avec le ton normal de la narration. Chez Kerouac et chez Céline, c'est une chevauchée folle, et déjà le rythme de leur texte souligne que tout cela est fou depuis le début.
Z toho textu zdůrazňuje, že to celé je úplně šílený od prvního okamžiku.
Martin Richavi est loin d'idéaliser ou de romantiser la vie en Sibérie. Il ne cache pas que la vie sibérienne est aussi extrêmement fade, ennuyeuse, que la majorité du temps il ne se passe rien et l'homme sibérien sombre dans la passivité. Même les chamans sont en voie de disparition et rien ne marche comme il faut. Inutile de s'insurger contre cette situation, la seule façon d'y vivre est de se laisser entraîner par les événements. Autrement, on risque une série interminable de déceptions et des accès de colère impuissante. Cette matière a toutefois permis à Martin Richavi de créer un livre volumineux et passionnant.
Vous savez, ce n'est pas si volumineux que ça. Je voulais tout simplement y présenter tous mes voyages. Le livre se compose donc de 6 ou 7 récits de voyages qui forment chacun un chapitre individuel. Et ces chapitres individuels ne me permettaient pas de me rendre compte de la longueur du livre. Ce n'est qu'après avoir réuni tous ces chapitres que le livre est devenu aussi volumineux. Je ne réfléchissais pas sur l'épaisseur du livre, je ne savais qu'une seule chose, il fallait tout y mettre.
La somme d'informations que l'auteur a mis dans son roman est impressionnante, mais il a réussi en plus à lui donner une certaine discipline de narration et une forme serrée qui est enfin un livre sur le destin des hommes, sur une région et sur une époque. En décrivant les avatars amoureux, les déceptions et les ambitions sentimentales de son héros, il a créé aussi un curieux roman d'amour.
Bien que le lecteur, après avoir lu ce roman, ne connaisse probablement pas de catharsis spéciale, je crois pourtant que quelque chose de ce genre est quand même dilué dans le texte. C'est une sensation qui s'intensifie sans cesse au fil de la lecture.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui à l'écrivain Martin Rechavi et à son roman Voyage en Sibérie et présenté en rediffusion que prend fin cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochova et Aleš Pezl. On se retrouve dimanche pour le magazine musical. D'ici là, portez-vous bien, à demain.
Radio Praga.